Tu peux compter sur moi.
Louis Chédid.
Tu peux compter sur moi.
Et Gush. Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter et le Théâtre des Bouffes du Nord présentent avec le Festival d'Automne à Paris du 9 novembre au 31 décembre Une Flûte Enchantée, mise en scène par Peter Brook. Peter Brook nous propose une relecture de La Flûte Enchantée, dont la transcription musicale pour piano permet aux chanteurs-comédiens de délivrer toutes les nuances du langage mozartien. Retrouvez Une Flûte Enchantée dans les émissions de France Inter.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
C'était très intéressant ce matin d'écouter France Inter où il y avait tous les commentateurs spécialistes des États-Unis qui nous expliquaient que ce pauvre Barack Obama n'avait pas pu mettre en place une vraie réforme sociale concernant la santé aux États-Unis parce que le système était complètement gangréné par les entreprises privées qui se partagent le gâteau de la sécu et des retraites aux États-Unis. C'était marrant parce que c'est exactement les mêmes qui ne comprenaient pas pourquoi on descendait dans la rue la semaine dernière et pourquoi on descendra dans la rue la semaine prochaine. Allez, ciao, viva, portez-vous bien. C'est bien de temps en temps, hein, ça fait du bien. Viva.
Votre émission de lundi, aujourd'hui, me suggère le souvenir suivant de quelques vers appris à l'école primaire de la République il y a environ 72 ans. Sublime connaissance, ô très précieux savoir. Dénoncer les croyances complices des pouvoirs, au fol obscurantisme opposer les lumières, assez des fanatismes aux folies meurtrières. Voilà, merci.
Bonjour, je voudrais signaler une bonne nouvelle pour les AMG de Montauban et la région. Un café repère vient de s'ouvrir à Montauban. C'est au Diablotin, 51 rue Sapiac à Montauban. La première réunion aura lieu mardi 16 novembre à 20h30. On vous y attend nombreux pour définir ce que vous voulez faire de ce café repère. À mardi.
Salut Daniel, c'est Julien d'Orléans. Donc là, on est en train de faire un action péage gratuit au péage d'Orléans Centre. On est encore une 150aine, les flics nous surveillent un peu de loin et il paraît que la mobilisation aujourd'hui est morte, ce qui est totalement faux. Il y a, sur les 150, il y a 100 salariés, une trentaine d'étudiants et une vingtaine de lycéens. Donc la mobilisation continue, on lâchera rien et nous on repart dès demain, on bloque la fac et on sera dans la rue pour faire plier ce gouvernement de merde. Merci, à plus Daniel.
Salut Daniel, et garde ton sang-froid.
Oh Daniel, on a eu chaud, notre pauvre président, il a failli se prendre une bombe dans la gueule, en Grèce, oh là là, on a eu peur, hein. Oh pauvre président bien-aimé, lui le plus grand président du monde, oh qu'on n'ait jamais eu sur la planète, oh pauvre Nicolas, j'ai eu peur là, vraiment, hein. Oh là là, j'espère que Eric Worth, il n'aura pas la même chose, hein, le pauvre gars, lui qui a su réformer nos retraites, lui qui est si courageux, Eric Worth, vraiment, ce gars-là, vraiment, j'ai une admiration pour lui, nous sommes vraiment admiratifs de cet homme qui n'a pas cédé face à la rue. Comme Nicolas, ils n'ont pas cédé face à la rue à tous ces gauchistes qui veulent la retraite à 50 ans, là, non mais c'est une honte, c'est une honte. Oh là là, mon Dieu, t'imagines une bombe en pleine gueule, là. Oh là là là, c'était une tarte à la crème, passe encore, mais une bombe. Oh, ils sont vilains, ces anarchistes, gauchistes, anarchistes, je sais pas quoi, là. Oh, Daniel, vraiment. Oh, je suis contrarié, là, vraiment. Oh là 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 là.
Oh là 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 là, ben voilà des auditeurs prévenants comme on n'en trouve que dans la passe qui suit. Jamais les oreilles loin du front, grâce à vous, merci pour ces messages, chers AMG qui est en train de suivre ce qui se passe aux États-Unis, j'en suis absolument certain, et pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis, ben il y a plein de choses qui se passent en France, et notamment... Durant cette saison dorée, c'est joli, saison dorée, c'est la saison dorée, eh oui, pour dire l'automne, oh, c'est joli, et puis l'automne de la vie aussi, vous voyez, ces moments, voilà, la fin, mais alors la fin en beauté, la fin toute moirée d'or et de pourpre, oh, que c'est joli, ben c'est là-dedans qu'on va aller avec
Avec Charlotte.
Avec Charlotte qui va nous emmener dans la saison dorée. Évidemment, c'est là-bas si j'y suis. Alors, on sera peut-être pas aussi doré que ça jusqu'au bout. C'est ce qu'on va voir auparavant. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Mermet.
Salut à tout le monde.
Le prochain Café Repère de Barcelone,
c'est mercredi soir.
On parlera de l'action individuelle.
Qu'est-ce que je peux faire toute seule pour changer le monde?
Sujet à contre-courant? Pas si sûr. Et si l'action individuelle, c'était le moteur de l'action collective?
On parle toujours de l'effet boule de neige.
Rosa Parks, Mandela, Mère Teresa, des exemples. Ils ont inspiré les foules. Ils ont pris des risques aussi.
Et nous? On est conscient de notre pouvoir, des conséquences de nos actes héroïques du quotidien?
Un battement d'ailes de papillon peut-il déclencher des tornades à l'autre bout du monde?
Ou il faut la force de Martin Luther King, Bouddha ou Gandhi pour impulser les grands changements?
Changer le monde commence par se changer soi-même. On essaiera de répondre à ces questions mercredi soir à partir de 20h30
au Café Glacier sur la Plaza Real de Barcelona.
Salut et révolution!
Madame Lagarde, c'est bien la finance qui nous fout dans la merde. Quand l'autre jour vous parliez des sous-traitants automobiles, combien il y a encore de personnes qui vont être licenciées? 100 000? 200 000, 300 000, combien? Moi, j'ai travaillé dans la sous-traitance automobile et on a été foutu à la porte. Cette année, en 2010, je suis dans le département de la Nièvre, mais c'est une catastrophe. Madame Lagarde, qu'est-ce que vous faites?
Bonjour tout le monde. Attention, exceptionnellement, le rendez-vous du repère de Saint-Péret en Ardèche aura lieu ce soir, mardi 2 novembre. Toujours à 20h, toujours à l'hôtel Badet. À Saint-Péret, nous parlerons de l'habitat. Bâtir différemment, c'est possible. Je compte sur vous, soyez nombreux. À ce soir, c'était Cyril d'Ardèche. Ciao, ciao.
Bonjour. On est résident, oui.
Et vous savez le personnel qui est en grève, c'est ça?
Ouais. Moi, ce que j'en pense, eh ben, j'en pense que je vis au jour le jour.
Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, moi. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire.
Les personnes âgées, ça rapporte de l'argent. Ouais. La preuve, c'est que les gens investissent. C'est un placement sûr.
Même, on nous a même dit de chronométrer, hein. On nous a passé un chronomètre, oui. Et on nous a dit de chronométrer le temps de toilette. Là, je trouve, là, c'est grave. On travaille avec des humains, donc on n'est pas à l'usine.
On ne peut pas, en tant qu'aide-soignante, travailler jusqu'à 67 ans. Limite, on a 10 ans de différence avec les résidents. C'est à savoir, c'est qui va prendre qui en charge.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, la saison dorée.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous vous appelez comment, vous, monsieur?
Richard.
Ça se passe comment, une journée ici, à la maison de retraite
Oh bah ça, les jours ça paraît long, mais enfin ça.
Et alors vous faites quoi de la journée ici?
Bah rien. Content de m'adresser à la toilette, après je fais un tour en bas, et puis je remonte, et puis j'attends midi pour le repas quoi. On se fait pas d'amis là.
C'est pas dit?
Non. On vient de l'équipe de France, ici, les gens se connaissent pas.
Et les infirmières, les aides-soignantes, elles ont le temps de passer, discuter avec vous, prendre un café?
Non, elles ont tout le travail pour... Elles sont débordées parfois. Mais en principe, ils ont payé toutes 2000 euros par mois.
2000 euros par mois?
Oui. Ben, je paye parce qu'ils ont vendu mon appartement, alors.
Ah, vous avez dû vendre votre appartement?
J'ai vendu l'appartement, mais ils m'ont supprimé l'aide sociale. Comment ça s'est passé? Ouais. J'ai travaillé à maçonnerie puis en électricité.
Électricité.
Mais je veux bien guérir vite parce que j'ai paralysé tout le côté gauche et paralysé.
Ah, tout votre côté gauche s'est paralysé? Ouais. Bon bah bonne journée monsieur. Ouais. Donc, je crois qu'on va aller manifester aujourd'hui, c'est grève.
Ah vous y allez? J'ai emmené tous les malades. Ça serait mieux me porter.
C'est vrai. On aurait dû emmener tous les gens qui sont à la retraite ici.
Ouais, tous ceux qui sont handicapés.
Merci monsieur. Au revoir.
C'est vrai qu'aujourd'hui c'est. Saison dorée, ouais, c'est vrai que c'est joli. Un tout petit peu moins joli si l'on en croit les salariés de la Saison Dorée, cette maison de retraite privée, quelque part dans Lyon où nous sommes. Mais la Saison Dorée, je le disais, ça évoque l'automne de la vie, les aînés, les anciens, les seniors, les troisième âge, autant d'euphémismes et de mots délicats, mais derrière ces chichis langagiers se développe un business de plus en plus juteux. Le vieux est une industrie, c'est une matière première. Le papy-boom, l'or gris, on nous l'a dit et répété, de plus en plus nombreux à vivre, de plus en plus vieux. Les maisons privées se multiplient, des groupes comme le groupe Corian, où nous sommes, cette maison appartient au groupe Corian, prospère de façon extraordinaire, ceci grâce à des subventions publiques, le département qui finance la dépendance, l'assurance maladie qui paye les soins proprement dit, l'État qui finance au nom de l'aide sociale, et ainsi pas loin de la moitié du chiffre d'affaires de ces maisons privées provient directement des impôts, de nos impôts, et des cotisations, nos cotisations payées par nous autres, les Français, la sécurité sociale, les collectivités territoriales et l'État garantissent les rémunérations des actionnaires. Les actionnaires, c'est-à-dire les multinationales et les fonds de pension. Ainsi donc, le gouvernement soutient ces multinationales en détruisant le service public. C'est une chanson que vous connaissez, que vous entendez depuis des années dans cette émission et ailleurs. Si c'est pas les maisons de retraite, c'est autre chose qui appartient au bien public. Régulièrement, quand il s'agit de maisons de retraite, on a un scandale de maltraitance qui éclate dans l'une de ces maisons. Des histoires de résidents qui restent attachés jour et nuit, de grand-mères maltraitées, abandonnées ou giflées, des médicaments périmés, administrés aux résidents, alors indignation, alors enquête, alors fermeture éventuellement, mais rarement de réflexion sur la fin de la vie, sur la fin de nos vies. Les résidents, les personnes frappées de grandes maladies comme Alzheimer ne sont pas des étrangers. Ce sont pas des étrangers qu'on pourrait renvoyer derrière une frontière. C'est nous-mêmes, c'est nous. Et on le sait depuis bien longtemps, une société se définit par la façon dont elle traite ses vieux. Si c'est ça, la nôtre ne vaut pas grand-chose. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce film qui s'appelait Soleil Vert, Soleil Green, qui se passait en 2022. Ah, encore 12 ans pour que la prophétie de Soleil Green, de Soleil Vert, ne se réalise. Surtout pas. Parce qu'à la fin du film, on découvrait que le monde manquant de certains éléments, de plancton notamment, eh bien, on fabriquait des petites pilules avec des cadavres, des vieux que l'on faisait mourir en leur montrant de très belles images, et avec ces cadavres on fabriquait ces pilules indispensables à la survie de tous. Grotesque science-fiction, peut-être, Mais aujourd'hui, le vieux est une industrie. Et simplement, tout clairement et tout cyniquement, une industrie. On a eu le charbon, on a eu le textile, on a eu des époques différentes. Aujourd'hui, c'est le vieux. L'avenir, c'est le vieux. Le vieux à la benne. Le vieux sur le tas d'ordures. C'est là-bas si j'y suis. C'est jusqu'à 16h. Une heure dans la saison dorée.
Moi ça peut servir d'attendre en cœur la mort. Quand on pense qu'il y a des peuples qui respectent encore leurs vieux, alors qu'ils se chient dessus, par je t'accumule. On va jeter les vieux, direct à la poubelle. On va jeter les vieux, direct à la poubelle. Être civilisé, c'est savoir oublier. Être civilisé, c'est savoir oublier. Le vieux s'achève. Rigole sous ses peintures, car chez lui on admire sa sagesse, sa droiture. Regardez ici les vieux, crevez tous dans le mépris. Et toi aussi t'es trop jeune, tu en payeras le prix.
On est où exactement? Là on est à Montplaisir. Voilà, Ville des Lumières. C'est le point de départ pour la manifestation.
La manifestation pour les retraites, oui.
Alors voilà où nous sommes, à Montplaisir, à Lyon, avec ces manifestants. Manifestants, la femme que vous venez d'entendre s'appelle Samia. Elle est déléguée syndicale Corian. Corian, on va le préciser, on va nous préciser tout ça, est le premier groupe européen pour les résidences pour les personnes âgées dépendantes. C'est un secteur d'activité qui se développe de façon formidable actuellement en France et en Europe et dans le monde, et qui attire nombre de fonds de pension, d'actionnaires et de toutes sortes. Or, ce jour-là, les salariés de cet établissement, donc la saison dorée, à Lyon, sont en grève. Pourquoi est-ce que les personnels ainsi se mettent en grève alors qu'elles ont pour obligation de soigner, d'aider, de soutenir des personnes âgées et en détresse? On va en savoir plus.
Vous êtes donc Samia?
Oui, je suis salariée Corian. Je travaille dans une maison de retraite sur Lyon 3e.
C'est quoi Corian?
En fait, Corian, c'est le premier groupe européen et français spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées et dépendantes. C'est un groupe qui possède plus de 270 établissements sur le territoire français, des établissements en Italie et des établissements en Allemagne. Les conditions de travail sont très dures. En fait, dans mon établissement, c'est pas l'exemple idéal parce qu'on s'est battu il y a 2 ans pour améliorer nos conditions de travail. C'est ce qu'on a réussi de faire. Et c'est vrai que ça fait 2 ans, on n'a pas à se plaindre côté conditions de travail. Mais dans d'autres établissements Corian, la situation est autre. Un soignant fait au minimum 12 toilettes par jour. Voilà, pratiquement dans l'ensemble des établissements Corian, à part le nôtre, parce qu'on s'est battu pour. On a fait une grève de 17 jours en 2008. Nous avons gagné beaucoup sur, pas en argent malheureusement, parce que nos salaires sont aussi dérisoires et aussi minables.
C'est combien?
C'est 1200 euros net par mois, y compris mon expérience, donc mon ancienneté de 6 ans. Donc si vous déduisez l'ancienneté, un aide-soignant qui travaillerait chez nous toucherait à peine 1000 euros par mois. Chez Corian actuellement, il y a un établissement qui est en grève depuis le vendredi 1er octobre, Corian Saison Dorée. Donc ils sont en grève depuis une douzaine de jours pour revendiquer d'abord leurs conditions de travail.
Ils sont ici là?
Non, ils sont pas là parce que le groupe Corian les a assignés, donc les a réquisitionnés. Et donc ils sont quelque part sur Lyon.
Et ce serait possible de les rencontrer?
Tout à fait, bien sûr, on pourra aller les voir dans la journée, oui, bien sûr, dans la matinée, oui.
vous travaillez tout au même endroit.
Oui.
Finalement, les résidents payent très cher. Vous, vous êtes assez peu payé.
Hein?
Et les bénéfices vont où? Parce que les résidents s'y payent.
Les actionnaires.
Les actionnaires.
Vous avez une idée des bénéfices annuels de Korian?
Ça remonte à plus de 4,2% du chiffre d'affaires. C'est dans les, à peu près dans les 150 millions d'euros. Les chiffres sont édités et publiés. Mais ils sont quand même effrayants. Surtout quand on nous oblige à compter le nombre de beurres, le nombre de confitures, le nombre de biscottes qu'on donne aux résidents le matin. Voilà ce qu'on nous demande. Il faut qu'on calcule au plus près. En fait, tout est calculé au plus près pour ne pas dépasser le budget alloué par la région. Ça arrive jusque-là, les calculs, jusqu'au beurre, biscotte. Leur seul souci, c'est de racheter d'autres établissements, de payer les crédits et ainsi de suite. En fait, Korian, c'est l'investissement. Voilà, c'est tout. C'est du commerce. C'est du commerce à travers les personnes âgées.
Là, nous, on quitte la manif. On se dirige vers la saison dorée. C'est donc la maison de retraite qui est en grève en ce moment.
Oui, oui, oui. Je vous y emmène.
Hop, on rentre dans le métro. De la saison dorée.
Bonjour.
Bon, on s'assoit là,
c'est propre en principe.
Je me présente, je suis Belmoum Elada, déléguée du personnel et représentante du syndicat CFDT. Alors, nous sommes salariés de la saison dorée, qui est une maison de retraite privée et qui appartient au groupe Korian. Donc, nous sommes en grève à peu près depuis 12 jours.
Et vous êtes combien à être en grève alors?
Bon, on est à peu près une trentaine.
Sur combien d'employés?
À peu près, on est 55. Donc, ce qui reste, c'est le service restauration et l'administration. La nuit, pour 108 résidents, nous n'avons que deux soignants pour les 108 résidents, la nuit. Sachant que, justement, il y a de la démence et des personnes Alzheimer et des cas psychiatriques difficiles. Donc, on ne peut pas répondre aux sonnettes, on ne peut pas faire l'échange de personnes de protection, parce que malheureusement, ces personnes ont des protections, il faut les changer dans la nuit. Une partie, ils changent, et l'autre partie, malheureusement, reste dans leur, entre guillemets, souillée dans leurs urines. Et on ne peut pas surveiller, justement, ces personnes qui déambulent toute la nuit. Donc, on risque de se mettre en danger, de mettre en danger un tiers.
Nous, avec Patrick, Steve, et puis, enfin, je parle du premier étage, c'est le Cantou, donc l'étage sécurisé. Il y a 24 personnes, on est 3 personnes jusqu'à 1 heure pour donner à manger aux 24 personnes. Et le soir, on se retrouve 2 personnes au repas du soir, donc il y a certaines familles bénévoles qui viennent nous aider. Sinon, on ne peut pas, on est sous-effectif.
On en arrive à se culpabiliser parce qu'on a, l'impression d'être maltraitant. Parce qu'on va vite. Pourquoi on va vite? Parce qu'on n'a pas le temps.
Même, on nous a même dit de chronométrer. Hein. On nous a passé un chronomètre et on nous a dit de chronométrer le temps de toilette. Là, je trouve là, c'est grave. On travaille avec des humains, donc on n'est pas à l'usine.
Nous dénonçons cela depuis 2 ans. Nous avons encore dénoncé cela dernièrement au mois de juin. Nous avions déposé un préavis de grève. Ils nous ont dit de patienter et qu'ils feraient le nécessaire, essayeraient de réorganiser cela. 5 mois après, nous redemandons, donc en septembre, où en est ces négociations, ces démarches, toujours rien. Alors, que fallait-il faire? Alors, notre droit pour nous, c'était de faire la grève. Mais maintenant, on nous dit qu'on n'a même plus le droit de faire grève. Ils réquisitionnent l'ensemble du personnel. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse grève si on doit aller tous travailler? Où est le droit de grève si tout le monde est réquisitionné?
Vous êtes payé pendant la grève?
Pas du tout. Pas du tout. On a perdu, là, 12 jours de salaire. Si on en est arrivé là, c'est vraiment que, voilà, on ne peut plus. En fait, ils veulent rien donner, ils veulent pas payer les postes, ils veulent rien faire. Donc, on ne sait pas si vraiment ils tiennent à ses patients et à ses résidents ou ils tiennent à leurs actions, puisqu'ils ont racheté encore 8 autres maisons.
Le premier semestre, ils ont fait un bénéfice de 6%, 6,8%. Donc, ils s'en ont mis plein les poches et nous, magouille.
Et c'est possible d'aller les voir là dans l'établissement ?
Je suis déléguée du personnel, donc j'ai accès à l'établissement.
Voilà la lutte des salariés de cette maison de retraite privée, donc du groupe Corian, la saison dorée, une lutte difficile, toujours lutte difficile dans le privé, en plus dans cette activité très particulière, soutenir et soigner les personnes âgées, parfois des personnes dépendantes, évidemment c'est pas facile du tout, on se sent comme vient de le dire Belmoun et Lada, rapidement coupable, mais quand même on fait la grève. Quel soutien y a-t-il? Rencontre avec une voisine.
Bonjour mesdames. Oui, moi j'avais Mathieu, ma tante, donc pendant 3 ans à la saison dorée. Bon, j'y allais tous les jours, parce que vous voyez, moi j'habite tout à fait à côté, là.
Vous habitez là, en face ?
J'habite là où est mon mari, sur le balcon.
Ah, hein. C'est votre mari, là, en bleu, au balcon ?
Donc, bon, d'habitude, il est couché à cette heure-là, hein, d'ailleurs. J'y allais tous les jours, donc je sais bien ce qui se passait. Ma tante, elle était dans un étage en plus très difficile, elle était au 1, le canton du 1. Ils étaient 24 personnes. Bon, sur les 24, je dirais qu'il y en a 23 qui n'avaient pas du tout leur tête. Moi, j'y allais l'après-midi, donc vers les 2h30, donc je faisais le soir bien souvent quand elle était fatiguée pour la faire manger. 2 aides-soignants pour 24 personnes. Alors, ce qui arrivait, ils faisaient l'échange l'après-midi, donc les 2 aides-soignants étaient dans les chambres parce que il y en a des très lourdes. Il faut absolument être 2 pour les changer, donc ils étaient dans les chambres. Au fur et à mesure que la personne était changée, on l'amenait dans le salon salle à manger, et on repartait vite fait en courant pour en changer une autre. Pendant ce temps, eh ben, les 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui se trouvaient là, sans aucune surveillance, des Alzheimer qui se battaient. Alors, quand les aides-soignants qui étaient dans les chambres entendaient des cris, eh ben, ils arrivaient en courant pour les séparer. Moi, j'ai vu une aide-soignante avec un cocard. J'en avais une toute griffée. C'est un vivant, moi, à mon avis, aussi bien pour le personnel que pour les résidents. Hein. Ça en arrive à dire, bon, parce que bon, ben, c'est pas le cas, parce que les gens sont très bien, mais ça s'apparente à de la maltraitante. Parce qu'on laisse pas, disons, des résidents tout seuls, disons, sans aucune surveillance. Et j'ai vu ça pendant la première année, non, ça s'est très bien passé, parce que la première année, disons, les gens étaient moins gravataire, moins dépendant. Et au fur et à mesure des décès, il est arrivé des gens fortement dépendants. Et plus les gens sont dépendants, plus, eh ben, disons, les 2 aides-soignants sont dans les chambres hein, pour faire les soins. Et il n'y a plus personne pour les surveiller, quoi. Heureusement qu'il y a des familles, hein, on nous soit dit. Hein.
Et votre tante, elle est restée combien de temps ?
3 ans. Ma tante, elle payait à l'époque, disons qu'elle est morte il y a 1 an et demi, c'est pas si vieux que ça, 2 600 € par mois. Je pense que c'est dans les mêmes eaux maintenant. Hein. Chambre seule, 2 600 € par mois. À ça, il faut ajouter donc la pédicure, il faut ajouter le coiffeur, il faut acheter les vêtements, il faut ajouter le shampoing. Il y a tout un tas de choses qui incombent aux familles qui ne sont pas dans les 2 600 € mensuels. C'est pas évident. Hein. Et ben heureusement que ma tante, elle avait un appartement que pour l'instant, on n'avait pas vendu. Mais enfin, bon. On lui a loué garni, comme il y avait des meubles, on lui a loué garni. Et disons, la location mise au bout de ses retraites, plus là, un peu l'argent qu'elle avait de côté, caisse d'épargne ou autre, jusqu'à présent, elle faisait le joint. Par contre, elle serait restée vivante encore 1 an ou 2, ce que j'aurais souhaité. Hein. Bon, ben, on vendait l'appartement. Hein. On aurait bien été obligé de vendre l'appartement. Hein. Mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vendent les appartements. Hein. Comment voulez-vous payer? Il y a beaucoup de gens qui ont une retraite de 2 600 € par mois. Moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. Je suis loin d'avoir 2 600 € de retraite. Et pourtant, j'ai une retraite de cadre. J'étais cadre B de la fonction publique. J'étais comptable et puis je tenais le budget et puis le contrôle de gestion dans un établissement militaire à Gerland.
Quand je serai vieille, je serai très très belle et j'aurai beaucoup. Toi, tu m'attendras patiemment. Quand on est vieux, on comprend tout. Quand on est vieux, on a le temps. Tout te mérite comme des petites flèches. Perceront le cœur, les yeux de ce que je voudrais séduire. Dites-vous que je ferai pâlir de jalousie des jeunes filles.
C'est la maison de retraite dans laquelle vous travaillez.
Voilà. Donc là, c'est la salle de pause, soi-disant. Et puis, il y a l'entrée, là, où les personnes peuvent s'asseoir. Voilà. Alors, cette année, ils ont fait des belles pelouses, parce que c'était pas ça du tout. Alors, on a quelques petites fleurs pour paraître plus jolies. En quelques années, on n'avait rien dans cette maison.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Vous allez bien ?
Bonjour.
Ça va ?
Je suis contente de vous voir. Je me suis trompée de... Ah, mais c'est pas grave.
Je me suis trompée d'une heure.
Ah.
Alors, j'ai chaud, je dis, si je me couche, je m'endors. Alors j'attends, là, que ce soit à deux heures par vers les deux heures par là, pour aller faire un petit tour par là.
Ah.
Enfin, moi, j'ai dit, moi, je peux pas marcher. La fois, on me met dans un fauteuil.
Ah.
Mais enfin, je veux sortir un petit peu, voir un peu de monde, voir... Je suis jamais sortie depuis que je suis là.
Vous êtes jamais sortie de la maison de retraite? Vous êtes là depuis combien de temps?
Je suis rentrée le 1er décembre, et puis après j'étais hospitalisée un mois, oui. Et je suis rentrée le 6 en pleine grève, alors, quelle catastrophe. On souffre beaucoup, parce qu'on manque de... Hier, je vous donne un exemple. Hier, à 8 heures, on m'a porté le petit déjeuner, et puis j'avais des grosses couches, parce que je ne peux pas me lever la nuit. Il n'y a personne qui est venu pour me l'enlever. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai enlevé cette couche-là. Et j'ai pu aller manger. Et je n'ai plus vu personne. Après, à 10 heures, on m'a apporté les médicaments. Et je n'ai plus vu personne. À midi, j'étais encore à chemise de nuit. Je m'habille, hein, mais c'est faire la toilette. Parce que j'ai ce bras qui ne va pas. J'ai qu'un bras de valide. Je mange tout. Je fais tout de la main gauche. Alors hier, c'était là. C'était vraiment là. Mais vous savez, il ne faut pas que ça continue trop longtemps, hein, parce que ça use les nerfs. Hein. C'est pas bien rigolo.
Vous savez pourquoi on fait grève? On fait grève pour qu'il y ait plus de personnel.
Mais
pour
je pouvoir, sais.
Pour répondre à, justement à votre demande, à vos sonnettes.
Je sais.
Et on n'a toujours pas rien obtenu.
Toujours rien?
Rien. Pour l'instant, il n'y a toujours rien. Ils ne veulent rien créer. Ouais. Et on attend. On négocie, on essaye d'avoir quelque chose, mais ils veulent rien négocier.
Je sais, moi, vous savez, quand je vous voyais travailler là, dur, fatigué comme vous étiez à la fin de journée et tout ça, vraiment, ça me faisait de la peine. Mais quand même, pour les malades, c'est dur de...
Il suffirait simplement qu'ils fassent un geste,
ouais.
Ils créent des postes,
ouais.
Et tout s'arrête.
Ouais.
C'est tout ce qu'on demande.
Je sais tout ça.
Nous sommes désolés que vous soyez... pris en otage, on va dire.
Voilà.
Mais c'est la seule solution qu'on a trouvée pour nous faire entendre.
Vous avez froid.
Vous avez vu?
Bon, ben, je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps.
Ça va changer, on va revenir.
Vous faites bien de me remonter le moral comme ça. Je suis contente.
Rentabilité élevée, croissance assurée, haut rendement, fiscalité favorable, un marché en plein essor. Voilà comment cette entreprise, ce groupe Corian présente ces maisons pour personnes âgées. Il y a plusieurs groupes qui sont en train de se développer de façon formidable en France, en Europe et dans le monde. D'où cette contradiction évidemment avec cette lutte, cette grève dont les personnes âgées sont effectivement peuvent être considérées comme prises en otage, sauf si on a la conscience de cette dame qui vient de parler, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tous les résidents n'approuvent pas la grève.
Madame ?
Oui ?
Je voulais savoir ce que vous pensiez de la grève.
Je suis choquée par le fait de faire grève dans une maison de retraite. Écoutez, moi j'étais dans l'enseignement, il y a souvent eu des grèves, je n'ai jamais fait grève. Et là, c'est pareil parce que c'est des petits, on ne peut pas les laisser dehors sur la cour, ils peuvent se sauver, ils peuvent. Là, c'est comme si on avait des bébés. Là, un premier, un cinquième, les maladies d'Alzheimer, quand même. Je trouve que c'est manqué de cœur. Il faut trouver une autre forme d'action. Il y a 5 étages, c'est faire grève par étage par étage, par exemple.
Ah oui,
un étage un jour, voilà. C'est mon idéal, moi. Quand les gens vont revenir, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais agir. J'ai l'impression que je vais leur faire la gueule.
Vous êtes ici depuis longtemps ?
Depuis un an et demi.
Vous les connaissez bien, donc les...
Oui, le personnel qui fait grève, oui, ouais. J'ai été étonnée. Parce que parmi eux, il y avait déjà un orage. Ça, je crois. Puis le climat de grève s'accélère en ce moment.
Vous voulez dire à l'extérieur ?
Oui, oui. Voilà.
Vous trouvez qu'il y a assez de personnel, ça va ou...
Non, il pourrait y en avoir plus. Voilà. Il pourrait toujours y en avoir plus, bien sûr. Là, je ne peux pas plus vous parler, j'ai une bronchite, je ne sais même pas si vous avez pu m'enregistrer.
Si, ça va, merci madame.
Vous vous asseyez, on va vous servir de soupe.
Allez. Vous en pensez quoi de cette grève ?
Bon, moi, maman est ici depuis le mois de mars et on était contente de l'établissement. Enfin, l'atmosphère générale, mais bon, les familles, c'est vrai qu'on est assez inquiets parce que la situation ne pourra pas durer éternellement, donc c'est pas trop. Puis en même temps, plus la grève, plus le mouvement dure, plus ça sera difficile pour les grévistes de sortir du mouvement sans rien obtenir. Donc. Bon, la situation, effectivement, à long terme, posera problème. Moi, je suis enseignante. Je suis dans l'enseignement public, où la situation est très difficile, avec toutes les suppressions de postes, avec des réformes non préparées. C'est pour ça que la situation générale est effectivement difficile et que beaucoup de mouvements se greffent là-dessus. Mmh. C'est ce qui rend le conflit encore plus complexe. Hein, ici.
Pourquoi vous avez décidé de mettre votre maman dans un établissement privé ?
Parce qu'il n'y a pas de place. Et que maman est restée 2 mois et demi à l'hôpital, qu'on n'arrivait pas à trouver de place et qu'on a eu la chance de trouver cet établissement près de chez nous. Donc voilà, et que quand il y a une place, on a 24 heures pour décider.
Mais c'est cher quand même.
Ah oui, tout à fait, oui. Ben, c'est sûr que la plupart des établissements sont très chers. Oui, non, c'est sûr que c'est un problème. Elle avait épargné de l'argent pour justement, pour en cas de dépendance, donc c'est... Une assurance dépendance, oui. C'est cet argent, parce que la retraite ne suffit pas du tout à couvrir le prix, c'est sûr. Mmh.
Regardez ça.
Oh, vous avez votre pantalon baissé. Il n'y a personne qui peut s'occuper de vous.
Ben, je ne sais pas. Demandez. Regardez ça.
Vous voulez que je vous ferme le pantalon ?
Regardez.
Allons-y dans votre chambre, s'il vous plaît. Retournez.
Ça fait déjà 2 fois que ça se passe comme ça.
Oui, mais c'est pas avec moi. Allons-y.
Eh bien, qu'est-ce que vous voulez passer, filer ?
Allez, on se retourne, on y va, madame. Vous savez, on n'a pas une minute à perdre. On court.
Mais merde !
Ah non, il n'y a pas de... Je vous laisse, je vais commencer comme ça, je vous laisse. Bon.
Laissez.
Ce n'est pas que vous, hein. J'ai le chariot, vous voyez ça, ça m'attend.
Je suis Agnès Solerti, la directrice.
De l'établissement La Saison Dorée.
Oui, c'est ça, à Lyon. Moi, je suis à ce poste depuis mars 2010.
D'accord, vous êtes ?
Je suis directeur régional adjoint.
sur la région Rhône-Alpes. Moi, je m'occupe de la sécurité et de l'organisation à côté de la directrice pendant ce conflit qui est dur et qui a nécessité de mobiliser beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles coriants pour venir s'occuper des résidents. Et je peux vous dire que la solidarité au niveau d'un groupe, quel que soit le niveau hiérarchique des personnes qui sont intervenues, est forte pour venir aider à la conduite d'une journée la plus normale possible pour nos résidents.
Mais ces bénévoles...
Ce sont des salariés coriants.
Donc ils sont payés, ils ne sont pas bénévoles.
Ce sont des salariés coriants.
D'accord. Alors pourquoi ils sont des bénévoles?
Parce qu'on les considère bénévoles, parce que ne faisant pas partie de la maison. On les appelle bénévoles chez nous. Là, ils ne sont pas bénévoles au sens où ils viennent gratuitement. Non, ce sont des salariés coriants qui viennent passer du temps ici.
Mais alors du coup, ils logent à l'hôtel? Vous leur payez un hôtel, un billet de train?
On va dire que ça, c'est notre organisation interne. Nous organisons pour garantir la continuité de la prise en charge de nos résidents.
Et où en sont les négociations? Comment ça se passe?
Alors, on les a rencontrés deux fois déjà avec la directrice régionale. Au niveau des augmentations de salaire, la position est très claire. C'est pas pour cette année que les négociations se font. De toute façon, au niveau de la structure, il n'y a pas négociation. Si vous voulez, ça se fait au niveau national. Donc, ça sera revu l'année prochaine dans les différents points qui seront abordés. D'accord? En termes d'augmentation d'effectifs, on avait déjà des démarches qui avaient été entreprises depuis le mois d'août 2009, parce qu'on est absolument conscient qu'il y a des besoins en termes d'effectifs et de soignants sur les structures des unités protégées.
Ah, donc vous êtes d'accord qu'il faudrait plus d'effectifs?
Mais absolument, ça n'a jamais été contesté. Après, c'est une question de financement, de besoin en financement, puisque je ne sais pas si vous connaissez notre système de fonctionnement, mais en fait, les postes sont financés, pas uniquement par Corian, mais avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et le Conseil général. Donc je veux dire, on ne prend pas seul la décision de créer des postes. On s'est engagé à anticiper ces recrutements si on sait que l'ARS nous suit après.
Mais ce que je comprends pas, c'est qu'un groupe comme Corian, qui fait 850 millions de chiffres d'affaires et une croissance à 9,3%, quelque chose comme ça, comment ça se fait que le groupe peut pas investir dans un peu plus d'employés pour s'occuper des personnes âgées?
Alors, si vous voulez, ce qui est imputé sur la section, ce qu'on appelle l'hébergement, ça c'est ce qui est à la charge directement du groupe Corian, ce sont les postes hôteliers, mais ce qui est la partie soins est obligatoirement financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc je veux dire, ça n'est pas la décision de créer des postes ne dépend pas sur les soins ne dépend pas uniquement de Corian. D'accord.
Alors on va se tourner vers l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé. Mais je le rappelle, des groupes comme Corian prospèrent grâce aux subventions publiques. Je le disais en commençant, il y a le département qui finance la dépendance, l'assurance maladie, la sécurité sociale qui paye les soins, l'État qui finance l'aide sociale. Je le répète encore une fois, la moitié du chiffre d'affaires d'un groupe comme Corian provient directement des impôts et des cotisations que nous payons, c'est-à-dire que ces groupes privés font des bénéfices en siphonnant les subsides publics. Ça, c'est pas évident à comprendre, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter ce qui se joue là. Parce qu'évidemment, il y a une revendication salariale, ces personnels qui sont en grève particulièrement difficile et courageuse pour augmenter les effectifs. Pour soutenir ces personnes. Mais au-delà de ça, c'est vraiment tout le fonctionnement et l'organisation de l'exploitation de ce marché qui est en jeu. Il y a aujourd'hui, dans notre pays, en Europe, dans notre monde, dans une indifférence relative, on va dire, mais quand même préoccupante, des marchands qui font de l'argent sur d'autres personnes en situation de faiblesse. Et je crois qu'il faut rester absolument avant toutes ces considérations techniques, indigné. Il faut rester absolument indigné. En tous les cas, voici la réponse que nous a faite une personne de l'ARS, c'est-à-dire de l'Agence régionale de santé.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc moi, je suis Cécilia Haas, je suis responsable du service communication. Donc le groupe Corian, c'est un établissement privé, totalement privé, qui bénéficie effectivement de financement de l'Agence régionale de santé et du Conseil général. On appelle ça une convention tripartite. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui est revu régulièrement, tous les deux ans. C'est un établissement privé, donc il est tout à fait en droit, de son côté, de créer des postes.
D'accord. Donc s'il voulait, le groupe Korian pourrait investir de l'argent pour créer des postes.
Tout à fait. C'est un premier élément important quand même. Hein.
Oui, parce que c'est pas ce qu'ils disent. C'est,
voilà.
C'est pas ce qu'ils disent.
Ils sont tout à fait en droit et nous, on est en aucun cas, on ne s'oppose à la création de postes s'ils le souhaitent.
D'accord. Donc si le groupe Korian voulait investir une infime partie de ses énormes bénéfices dans la création de postes, il le pourrait.
Tout à fait. Ce qui est certain, c'est que là, à ce jour, le groupe Korian, enfin pas le groupe Korian, l'EHPAD, hein, l'EHPAD Saison Dorée, elle est complètement dans le bien dotée au regard justement des normes qui sont établies et pas sous-dotée.
C'est-à-dire en personnel, il est doté normalement.
Oui, tout à fait. En plus, ils ont la liberté de créer des postes s'ils en ont besoin et s'ils en ont le désir. Donc après, il faudrait voir s'il faudrait pas tout simplement réduire la capacité d'accueil. Il y a des tas de choses, je pense, qui doivent être discutées. Et c'est pas aussi simple que finalement rajouter une ou deux personnes. Voilà.
Ok, très bien.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Quand je lis en première page que sur telle ou telle plage il y a eu un naufrage et que des gens sont morts noyés, c'est dommage parce qu'ils n'avaient pas d'engin de sauvetage. Je suis triste un court instant, mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions d'une société, mon présage, qui fait des bouées de sauvetage. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Moi j'ai une tante qui est ici à la Saison Dorée, oui. Je passe régulièrement pour ses papiers, puis pour la rendre visite, oui. Ben là, je viens d'apprendre, c'est vrai que ce qu'on payait, ça servait pas à financer le personnel, donc c'est une grosse surprise. Vu le prix qu'on lui demande, c'est vrai que ça justifie pas forcément. Elle doit payer dans les 2100 euros avec l'aide de la région. Donc 2100 euros pour juste de l'hébergement, ça fait cher, quoi.
Et là, vous en sortez de la maison de retraite?
Là, je viens d'en sortir, oui. Ça va.
Ça va. Vous la connaissez, sa tante?
Oui, c'est dans mon secteur. C'est moi qui s'occupe d'elle. Un petit peu gros cœur, quoi. Et en plus, elle est super bien, sa tante. Alors, elle est en bonne santé, pas d'escarre, rien du tout. Alors, j'espère que quand je vais reprendre, elle va être bien, quoi.
Vous vous appelez comment?
C'est Marie-Flore. Je suis retraitée des hospices civils et donc je voulais travailler pour être auprès des personnes âgées parce que c'était mon truc. Mais c'est le gif, quoi, parce que je n'aurais jamais imaginé dans les maisons de retraite travailler dans des conditions comme ça, surtout auprès des personnes âgées. Là, je vous assure que j'ai pris le gif. Hein, j'ai dit, c'est pas possible. On travaille à la chaîne. Moi qui n'ai jamais travaillé à l'usine. Ça me fait cette impression-là de travailler à l'usine, de dire, bon voilà, vous avez un quart d'heure pour laver, c'est vite fait le machin, on fait le visage du matin ou le visage du soir, on fait les fesses ou le dos, le machin, de calculer parce qu'on a un nombre de temps pour faire les toilettes si on veut finir pour 11h, parce qu'à 11h après, les filles, eux, il faut qu'ils descendent les résidents au réfectoire. Il y a un suivi, tout le machin. Il faut faire vite. On travaille vite, vite, vite. Et ces messieurs, comme Croyant, comme d'autres organismes, fait ça, ils ramassent que de l'argent. Là, dans ces maisons, dans ces résidences-là, ils ont vu que c'est là qu'ils récupèrent de l'argent. C'est une histoire d'argent-là qui est. Et c'est là que je dis, c'est honteux quand je vois que la direction, que la directrice ou l'infirmière cadre ne monte pas tous les matins de dire bonjour aux résidents. C'est votre rôle. C'est grâce à ces gens-là, si vous mangez, le minimum, c'est le respect de monter et dire bonjour, de serrer la main aux gens, de demander vous avez bien dormi. Même pas ça. C'est qui est minime, ils peuvent pas le faire ça. Moi, j'ai choisi ce métier-là, j'aime mon métier. Sinon, j'aurais pris ma petite retraite tranquille, assis chez moi, avec mes petits-enfants. Moi, c'est un métier, je dis, on a que du bonheur là-dedans. Que du bonheur d'écouter ces personnes âgées. Mais c'est hyper flippant, ça fait peur parce qu'on se dit, on vieillit, demain ça va être moi.
Vous aimeriez vieillir ici ?
Oh, pas du tout, à mon Dieu. Comme j'ai dit à mes enfants, surtout pas, ne m'emmène pas dans ces morards-là. Parce que moi, j'appelle ça un morard. Moi, je dis, moi, personnellement, j'aurais ma mère dans ça là, la maison serait déjà fermée. Madame Maréchal, mettez-vous plus droite. Vous mangez. Hein, mémé ?
Est-ce que c'est bon ?
Oui, non.
Ce que vous mangez, là, le chou-fleur, le poisson.
Oh, c'est bon. Mais moi, j'aime pas le poisson.
Miss Alzheimer mange de la cervelle. Des idées s'envolent de la sienne.
Pour la peine, on donnera deux desserts, alors. Comme les enfants, hein. On fait pareil. Bah, vous êtes pas loin de la vérité, parce que je crois que je retombe en enfance.
Oui.
Miss Alzheimer mange de la cervelle. Des idées s'envolent de la sienne.
Eh bah, ben parce que je perds la boule, je me rappelle plus rien. Alors moi, quand j'étais gamine, ma mère m'appelait la sans-cervelle. C'était pas pour rien. Alors vous croyez que ça va s'arranger maintenant ? À 90 ans, ça m'étonnerait.
Tout ça est très joli. Mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Le sac à main dans le frigidaire, les bébés boivent du lait de toilette. La miss regarde des photos d'elle, trouve cet étranger à son goût. Oh, c'est qui cette belle dame? Mais voyons, c'est toi, mon amour.
Tout ça, c'est parce que je pas resté là.
Oui, mais qu'est-ce que je vous ai dit ce matin?
Mais rien du tout, un petit peu.
Non, écoutez-moi. Vous dites que vous voulez pas rester là. Qu'est-ce que je vous ai dit ce matin par rapport à votre maladie? Ben vous voyez?
Oui.
Parce que vous avez la maladie d'Alzheimer.
Oui, c'est ça.
Et c'est quoi la maladie d'Alzheimer?
Ben, c'est quelque chose qui touche la mémoire.
C'est ça, ben vous voyez? Et vous ne pouvez pas être toute seule chez vous, ce serait trop dangereux.
Ah oui, d'accord.
Quand vous faites à manger, si vous oubliez de fermer le gaz.
Oh, ben alors.
Voilà.
C'est ça la maladie d'Alzheimer?
Eh oui.
Ah bon, merci.
Ah bon, dit-elle, pas fixée du tout. Elle est pas fière, Miss Alzheimer.
La maladie d'Alzheimer.
Que vous avez
reçu là.
Miss Alzheimer mange de la cervelle, décide s'envole de l'assiette. Tout ça est très joli, mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Miss Alzheimer la nuit se réveille. Monsieur, que faites-vous dans mon lit? Mais mon amour, je suis ton mari. Ça, Miss Alzheimer, le grand mal. Non, mais dis donc, faut pas me la faire. Allez, ouse gamin, hors du lit. Alors le vieux gamin se relève. Il pleure, il rit et il engueule. Qu'est-ce que vous voulez leur expliquer?
Ben que j'ai la maladie d'Alzheimer.
Ils le savent.
Ben tant mieux s'ils le savent.
Ils le savent directement alors.
Miss Alzheimer mange de la cervelle, des idées s'envolent de l'assiette. Tout ça est très joli, mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Miss Alzheimer a mangé sa cervelle. Monsieur a perdu son amour. Stop. Y a plus personne.
Bon, allez, moi je vais faire la sieste.
Merci à toutes et à tous. On fera une suite demain de ce reportage de Charlotte Perry. Merci à Samia, Ada, aux salariés de la Saison Dorée, ainsi qu'à Madame Solerti et à Cécilia Haas de l'Ars. Et rien à voir avec les vieux, mais surveillez la sortie en librairie d'un bouquin formidable de Cardon. Vous connaissez Cardon, c'est un dessinateur que vous retrouvez chaque semaine dans le Canard Enchaîné, avec un style très particulier et pas toujours une très grande gaieté, mais toujours très efficace et très provocant et finalement stimulant à sa façon, à lui. Merveilleux dessinateur Cardon, vu de dos, 30 ans de dessin plus que politique, c'est aux éditions de L'Échappée. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez faire les commentaires que vous voulez, que nous attendons toujours avec plaisir. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Basile Bocquer, Koye Nguyen et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission. Assisté d'Agnès Lebot et Marina Touillez, attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
La Fédération Française de Cardiologie nous parle du DonorCœur.
Les maladies cardiovasculaires, c'est 400 morts par jour en France.
Professeur Beaune.
C'est encore trop. Nous sommes inquiets. Nous savons que les maladies cardiovasculaires, après avoir régressé, vont augmenter dans notre pays. On compte aujourd'hui plusieurs millions de malades, mais heureusement, la recherche avance, on sauve des vies, on améliore les traitements.
Soutenons la Fédération Française de Cardiologie, fedecardio.com.
h 25 sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
En marge de la signature de deux traités de coopération militaire entre la France et la Grande-Bretagne, Nicolas Sarkozy et le Premier ministre britannique David Cameron sont revenus sur la menace terroriste en Europe, qualifiée d'extrêmement sérieuse. Le président français a annoncé qu'il tiendrait une réunion demain à l'Élysée sur les questions de sécurité. Au Yémen, où l'armée a lancé une vaste opération militaire pour retrouver l'un des artificiers d'Al-Qaïda, suspecté dans l'affaire des colis piégés, un oléoduc a été saboté dans le sud du pays a pris feu. Là aussi, Al-Qaïda pourrait être impliqué. En Côte d'Ivoire, l'attente des résultats de l'élection présidentielle nourrit les peurs et les rumeurs. Du coup, les autorités multiplient les appels au calme, quels que soient les résultats. Des responsables religieux ivoiriens mettent en garde contre des risques de dérapage et de violence. Ils demandent aux électeurs de la patience en attendant les résultats promis par la commission électorale d'ici demain. Même tonalité du côté de l'Europe. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, appelle d'ores et déjà à respecter la volonté exprimée par les électeurs ivoiriens. Alors qu'aux États-Unis, on vote depuis ce matin pour renouveler la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, Barack Obama s'exprimera demain à 13h locale au cours d'une conférence de presse depuis la Maison-Blanche. On s'attend à un sérieux revers pour le Parti démocrate. Après 2 ans de mandat pour le président, les résultats seront connus dans la nuit. La France espère que la peine de mort par lapidation infligée à l'Iranienne Sakineh sera commuée. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Pierre Lellouche. Son comité de soutien craint une possible exécution de la jeune femme demain. Sakineh Mohammadi, âgée de 43 ans, a été condamnée à mort pour adultère. Confrontée à une forte mobilisation internationale, l'Iran a suspendu l'exécution en juillet et entamé le réexamen du dossier. 5 ans de prison ferme pour Tony Musulin en appel, c'est plus qu'en première instance, où l'ex-convoyeur de fonds avait été condamné à 3 ans de réclusion pour le vol de 11,5 millions d'euros. Son avocat annonce son intention de se pourvoir en cassation. Le Parti socialiste va déposer ce soir devant le Conseil constitutionnel un recours contre le projet de loi sur les retraites. L'opposition soulève 2 points sur la procédure, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles le débat s'est déroulé à l'Assemblée. Et sur le fond, le PS soulève une éventuelle rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Les sages disposent d'un mois pour statuer sur ce recours. Après la fac de Caen, les étudiants votent le déblocage de Paris 1 Tolbiac, décision prise en Assemblée générale. À Nantes, en revanche, revanche, le blocus de la faculté de lettres et de sciences humaines a été voté jusqu'à lundi, toujours dans le cadre de la protestation contre la réforme des retraites. La vie est brève et le désir sans fin, c'est le titre du roman de Patrick Lapeyre, paru aux éditions POL, qui vient de remporter le prix Fémina. Le Fémina étranger revient à l'un des phénomènes de la rentrée littéraire, Purge de la finlandaise Sophie Oksanen, paru chez Stock.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Marie-Pierre Planchon.
Il ou elle compose la carte du tendre de la France. Des femmes et des hommes qui ont décidé de faire de leur vie une aventure et de donner un sens à leur existence. Ce soir, un apigraphiculteur, Olivier Darnay, créateur de la Banque du Miel, car on ne prête qu'aux ruches. Pour le butin, à ce soir, 21h. En soirée d'ouverture du cycle Valère Novarina, France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent Valère Novarina par Guillaume Gallienne le jeudi 4 novembre à 20h au Théâtre de l'Odéon. Chez Novarina, c'est comme si chaque mot devenait un nom propre. Sa langue fait corps, gronde et se métamorphose, charriant des histoires intimes ou collectives. Retrouvez le cycle Valère Novarina dans les émissions de France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon, c'est Carrefour de l'Odéon, bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ce matin, vous avez peut-être entendu la matinale d'Inter, en grande partie en direct de New York, pour suivre les élections américaines. Alors pour accompagner ce grand moment, bien sûr, je vous propose une première partie d'émission dédiée à la musique américaine. Et puis en deuxième partie, j'accueillerai Claudio Chimonet, chef d'orchestre et fondateur d'un ensemble italien tout à fait fameux qui s'appelle I Solisti Veneti. Pour l'instant, Louis Moreau Gottschalk, compositeur américain, né à la Nouvelle-Orléans en 1829, qui est venu à Paris avec sa mère pour faire des études au conservatoire. Il a été vidé, on peut le dire, par un célèbre professeur qui considérait que l'Amérique, je cite, ne peut rien produire de bon que des machines à vapeur. Alors finalement, il va travailler en privé avec de bons profs quand même. Et puis il va faire des tournées dans toute l'Europe, puis rentrer au pays, il va sillonner l'Amérique et les Caraïbes pour faire vivre sa famille. Il va être très attiré par les jupons et avoir quelques scandales. Par exemple, il a séduit une jeune étudiante d'un séminaire à Auckland, donc il va être obligé de battre en retraite sur un bateau, le SS Colorado, steamership, un bateau à vapeur, pour échapper à ceux qui le poursuivaient. Et puis, ses tournées vont le conduire à Panama, au Pérou, au Chili, en Uruguay, en Argentine, au Brésil, il va atteindre Rio de Janeiro en 1869, c'est là qu'il va contracter la fièvre jaune et mourir le 8 décembre aux environs de Rio. Donc, Gottschalk, musicien américain venu en France, dont Chopin a dit le meilleur, Chopin l'a encouragé, il a dit « Mon enfant, je prévois que vous deviendrez le roi des pianistes ». Hector Berlioz a écrit dans Les Débats en 1851, « Gottschalk est du très petit nombre de ceux qui possèdent tous les éléments divers de la puissance souveraine du pianiste, il est un musicien accompli ». Et Camille Pleyel a écrit aussi « Il n'y a que Gottschalk qui puisse remplacer Chopin ». Camille Pleyel, à la fois industriel de la musique et compositeur. Le voici, Louis Moreau Gottschalk, dans « Manchega », c'est-à-dire une pièce inspirée par la région de la Manche, la Mancha, le pays de Don Quichotte en Espagne. Et c'est une étude qui rappelle aussi certaines musiques des Mexicains, des mariachis.